Imaginez un monde où l'actualité serait prévue largement à l'avance. Un monde où l'actualité serait le résultat d'une construction souterraine qui trouverait ensuite une visibilité dans les médias et les partis politiques, donc au final dans les esprits de chaque citoyen. Eh bien ce monde existe et il est décrit dans Sociologie politique des problèmes publics, ouvrage signé Éric Neveu, présent sur ce plateau. Et l'enjeu est important pour celles et ceux qui s'emparent de ces problèmes publics. Il faut faire la une. Faire la une pour sensibiliser les populations à tel ou tel sujet. Faire de ces problèmes parfois confidentiels des quasi-causes nationales. Pour cela, le chemin peut s'avérer long, de l'identification du problème à sa justification, puis sa médiatisation jusqu'à sa mise en débat. Ceux que l'on appelle parfois les influents doivent user de techniques souvent peu connues du grand public. Et vous entendrez que ces dossiers locaux ou globaux, qui sont au début l'affaire de quelques-uns, peuvent ensuite avoir un impact sur le quotidien de chacun d'entre nous. Comment l'actualité se construit-elle? Réponse dans Chercheurs en ville.
Chercheurs en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et la Wikiradio de l'UEB.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Canal B pour ce mois de décembre. Notre invité est Éric Neveu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et politiste, vous enseignez notamment à Sciences Po Rennes et vous répondez aux nombreuses questions, je n'en doute pas, de Xavier Daumontré, rédacteur en chef de Place Publique. Bonjour Xavier.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Et Christian Lebar, bonjour.
Bonjour Renan.
Directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, à vous messieurs.
Bonjour et merci effectivement Éric Neveu d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Chercheurs en ville. En écoutant le lancement que Renan Lemoyer vient de faire pour cette émission, moi je pensais que tout bêtement en tant que journaliste que c'était les journalistes qui faisaient la une des journaux, et puis en vous lisant on s'aperçoit qu'il n'en est rien, que nous sommes finalement très influençables, nous les médias, et c'est ce dont on va essayer de parler en le décryptant durant cette presque une heure ensemble. Et je vais tout de suite me tourner vers vous Christian Lebar, vous avez je sais beaucoup de questions à poser à notre invité dans un domaine de compétences qui est très proche aussi de celui qui est le vôtre.
Oui, merci Xavier. Alors, souvent, on a l'habitude de considérer que les problèmes auxquels sont confrontés les gouvernants, les politiques, ceux qui décident, sont les problèmes sociaux, c'est-à-dire les problèmes que tout le monde connaît, auxquels tout le monde est confronté, c'est-à-dire des problèmes qui se posent, c'est-à-dire qui se posent tout seuls. On n'a pas inventé le dérèglement climatique, on n'a pas inventé les échéances électorales, on n'a pas inventé les attentats terroristes, etc. Comme si les problèmes, c'est la conception spontanée qu'on en a, surgissent. Voilà. Et Eric, votre travail ça consiste justement à montrer que c'est pas comme ça que ça se passe, ou pas seulement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les problèmes ne tombent pas, ils ne surgissent pas, ils sont construits par des gens. Alors c'est peut-être partir de là qu'il faudrait.
Oui, alors peut-être qu'il faut qu'on distingue banalement les problèmes et des événements. C'est-à-dire, au fond, dans l'idée de problème, il y a des choses qui sont mises en discussion, qui apparaissent comme problématiques, qui apparaissent comme anormales. Je fais la distinction parce que, par exemple, le tournoi de Roland-Garros, il va revenir tous les ans.
On appelle ça un marronnier, dans notre jargon.
Voilà, on appelle ça des marronniers. Donc, il y a un rituel. Donc, ça a une espèce d'existence objective. Et puis, il y a effectivement des thèmes qui sont considérés comme devant être débattus et éventuellement devoir faire l'objet d'interventions. Et là, la question, c'est comment ça arbitre entre l'infinité des sujets potentiels de discussion, entre le foulard dit islamique, la médiocrité du personnel politique, la pollution par les voitures diesel allemandes et je ne sais quoi. Qu'est-ce qui fait que c'est un thème et pas un autre qui va remonter?
C'est ça qu'on appelle l'agenda, donc.
C'est ça qu'on appelle l'agenda, et les problèmes en question, ils sont pas ventriloques, et toute la question, c'est qui va les porter, les traduire, les parler, et faire qu'ils arrivent dans l'espace médiatique.
Alors, on a souvent en tête l'influence, justement, de groupes spécialisés, d'officines, de lobbyistes, de communicants, de spin doctors, appelons-les comme on veut. Est-ce que ce sont vraiment ces professionnels-là qui sont à la manœuvre aujourd'hui pour mettre les sujets à l'agenda ?
Oui, il y en a de plus en plus. Alors, l'ambiguïté, c'est de pas lire ça dans une optique complotiste. Il y a des créatures malfaisantes dans la coulisse qui... Mais c'est difficile d'évaluer avec précision. Mais si on dit qu'en gros, il y a 3 ou 4 professionnels de la communication, alors on va les appeler communicants, spin docteur, relationniste au Québec, pour un journaliste, on a un peu une idée du rapport de force et de la difficulté.
Rendons-nous, nous sommes cernés, c'est ça ?
Il y a largement de ça, oui. Et comme souvent d'ailleurs, ce sont d'anciens de vos professions qui trouvaient que c'était beaucoup de contraintes et peut-être pas une bonne balance avec les gratifications, ils savent comment vous fonctionnez.
Ils connaissent le mécanisme et du coup, ils sont d'autant plus efficaces et influents. On pourrait effectivement, je pense, autour de ce micro, multiplier des anecdotes vécues. Enfin, j'en ai quelques-unes en tête, mais on n'est pas là pour ça. Christian Lebart.
Oui, alors dire ça, c'est dire qu'au fond, il y a un arbitraire dans la construction de l'agenda. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui n'en sont pas et qui se posent quand même et qui sont en quelque sorte artificiellement gonflés. Et puis, ce qui est peut-être plus terrible encore, il y a des vrais problèmes qui ne se posent pas ou qui ne sont pas posés dans l'espace public parce qu'il ne se trouve personne en situation de les poser, c'est-à-dire concrètement personne qui a les ressources suffisantes pour les poser. Donc il y a, ça interroge la démocratie là du coup.
Tout à fait. Alors en tant que chercheur en sciences sociales, je n'ai aucune légitimité à dire quels sont les vrais problèmes. Ça serait devenir un acteur dans les débats. Mais on voit bien qu'il y a des problèmes qui, avec le recul du temps, nous paraissent délirants, qui sont érigés en sujet de discussion. Bah, pour donner un truc anecdotique.
Un exemple, oui.
Bah,
s'il vous plaît.
Aux États-Unis, à la fin du 19e, et c'est revenu dans les années 20, il y a eu des référendums sur l'usage de la margarine et sur l'interdiction de la margarine. Bon, alors c'était lié à toute une symbolique de la production de beurre. C'était la margarine symbolisait le monde industriel, les abattoirs de Chicago contre la vraie Amérique profonde. Mais je pense que dans 10 ans ou 15 ans, enfin, quand on verra les flots d'encre, de salive et de conneries qui ont été déversés sur la question du foulard islamique, du voile islamique, enfin, on se demandera comment on a pu dépenser autant d'énergie et de surface papier à un moment où le chômage de masse s'installait.
Aujourd'hui, c'est un des grands problèmes de notre temps, comment cuisiner et utiliser les matières grasses. Les gens hésitent beaucoup entre 3 catégories de matières grasses, le beurre, les huiles ou la margarine. Le beurre, quand il cuit, dégage une légère fumée et il risque de noircir à la cuisson. Cela inquiète les gens. En fait, il s'agit de la réaction de Maillard. Ce n'est rien du tout, c'est un changement de couleur. Quand il est trop noir, il peut simplement irriter l'estomac.
Est-ce qu'il n'y a pas non plus une certaine stratégie du rideau de fumée qui consisterait finalement à allumer ou à braquer les projecteurs sur un thème, peut-être comme vous venez de le citer, anecdotique ou mineur, pour se garder précisément d'aborder les questions qui fâchent et les vrais sujets ?
Si on peut soutenir ça, c'était une chose qu'avait développé il y a bien longtemps un politiste rennais que Christian connaît aussi, Philippe Brault, qui disait que l'art de la politique, c'était souvent effectivement de cristalliser des passions sur des problèmes qui n'étaient peut-être pas les premiers. Enfin, autant on peut comprendre le souci qu'ont eu les Républicains au début de la Troisième de prendre leur distance par rapport à l'influence de l'Église. Est-ce que vraiment la calotte était la première menace sur les couches laborieuses en France sous la Troisième République ? Est-ce que les musulmans sont le premier problème de la société française ? On peut en débattre.
Donc ça,
ça veut aussi dire que les politiques, ils sont où dans ce processus ? Ils sont en bout de chaîne, c'est-à-dire ils héritent d'un agenda de problèmes construit par les médias, par les lobbies, comme disait Xavier, etc. Ou est-ce qu'ils n'ont pas aussi un rôle à jouer de redéfinition des problèmes, de recadrage des problèmes, voire de re-hiérarchisation des problèmes ?
Un problème qui se pose et qui n'est pas débattu, pour moi, c'est la médiocrité du personnel politique. C'est-à-dire, très concrètement, je ne suis pas dans le jugement de valeur, je suis dans...
Ils sont tous passés par Sciences Po, pourtant.
Donc, oui, c'est pas une garantie, ça, je n'ai aucun scrupule à le dire, mais au fond, ils sont beaucoup moins capables qu'ils l'ont été à d'autres époques, soit d'être les capteurs de la société civile et d'identifier des problèmes émergents, soit de prendre des problèmes à rebrousse-poil. Il y a la fameuse formule de Martin Luther King, être un leader, c'est faire la majorité et pas la suivre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros problème de ce côté-là dans le personnel politique.
Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de modalités visant à faire remonter démocratie participative, etc., enfin forum citoyen, etc., de modalités par lesquelles les demandes remontent, ce qui rend les politiques un peu inexcusables de ce point de vue-là, si vraiment il y a des problèmes qui leur échappent.
Oui, mais je pense qu'on a un système politique qui est devenu très largement autiste, qui s'est clos sur lui-même en termes de recrutement social, de professionnalisation extraordinairement précoce, de perte de tout un ensemble d'articulations ou de liens avec la société, et que les manières de choisir les problèmes propres au monde politique ont aussi leur logique. C'est-à-dire, on va plutôt privilégier des problèmes soit dans la logique des échanges de coûts qui vont obliger les alliés à se rapprocher.
Vous l'écrivez comment? Coût avantage coût, hein, c'est ça. Ouais.
qui vont créer la zizanie chez l'adversaire, ou éventuellement des problèmes qui sont capables de cristalliser des passions, des ralliements, pas nécessairement des problèmes qui répondraient à des besoins immédiats. Le climat est un exemple intéressant.
Alors oui, on est en pleine COP21, c'est vrai que tous les journaux, tous les médias depuis maintenant des mois et des mois focalisent les unes, les reportages, les enquêtes sur la situation du réchauffement climatique. On a tous quand même l'impression que c'est un vrai sujet, et pourtant ça pourrait être aussi perçu comme une forme de problème public, pour reprendre votre titre.
Ah, mais ça, c'est typiquement un problème public, et c'est même un problème public qui s'est installé avec une force et une évidence considérables, mais c'est un problème public dont il est intéressant de voir comment il est cadré, c'est-à-dire comment les questions sont posées. Je pense au travail d'un jeune collègue qui s'appelle Combi, qui montre par exemple qu'un cadrage dominant, ça va renvoyer à la responsabilité personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire contre...
On éteint la lumière, on trie les déchets.
Et... on met des ampoules basse consommation, et bravo. Et il faut surtout pas dire le contraire. Il faut faire ça. Mais éventuellement, M. Volkswagen, pour reprendre ça, je ne fais pas une fixation sur ce constructeur.
On vous sent un peu agacé quand même.
Probablement une responsabilité dans la pollution de l'air qui n'est pas négligeable. Ou est-ce qu'on se polarise autant sur les conséquences de l'exploitation des schistes bitumineux au Canada, dans lesquels des entreprises françaises interviennent aussi.
Alors, vous mettez le doigt là, à l'instant, sur une dimension qui peut-être est un facteur explicatif du traitement médiatique qui est réservé à ces problèmes publics, c'est la dépendance économique. Vous venez de citer Volkswagen, on sait que c'est un annonceur très important avec les campagnes de publicité pour tous les nouveaux modèles. Enfin, l'automobile, l'industrie automobile est traditionnellement un très gros annonceur dans la presse. Alors, est-ce que critiquer Volkswagen, c'est se priver potentiellement de recettes publicitaire demain, ce qui inciterait peut-être les médias à parler mezzo voce par rapport à ce sujet?
Alors ça, c'est sûrement un des paramètres. Il y a des partenaires ou il y a des institutions qui sont des annonceurs puissants, mais je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Il y a le fait qu'éventuellement une partie importante des journalistes les plus en vue ont été formés et socialisés dans les mêmes écoles, et on va retrouver Sciences Po entre autres, qu'un certain nombre de décideurs, donc en toute bonne foi ils ont un espace de pensée qui est largement inscrit dans la même surface que les acteurs et les institutions avec lesquelles ils dialoguent. Il y a cette volonté de donner du crédit à des sources institutionnelles au nom du discours de l'objectivité, de la fiabilité. Bon, toutes choses qu'on peut comprendre, mais qui amènent plus facilement à accorder crédit aux institutions officielles qu'aux groupes écologistes qui sont suspects d'être militants, d'être partiaux, etc.
Christian Lebarthe.
Est-ce qu'on peut pas dire un peu la même chose sur les accidents de voiture, par exemple? On a toujours l'impression que le débat porte exclusivement sur tous les conditionnements qui portent sur le conducteur, et jamais, par exemple, sur l'état du réseau ou sur d'autres variables dont on pourrait démontrer sans difficulté.
Absolument. Ça, c'est ce que montre un des classiques de la littérature sur les problèmes publics, c'est Gus Field, le sociologue qui revendiquait aimer bien boire et qui faisait remarquer que aux États-Unis, si on veut aller boire un verre et peut-être plus qu'un ou trois le soir, on est forcé de prendre sa voiture puisque les lieux où on peut s'amuser à faire ça, ils sont en extérieur de ville, qu'il n'y a pas de transport en commun, donc ça ne justifie pas d'écraser les gens en revenant, mais ça pose la question d'une pluralité de causalité. Où je pense à un travail qui avait été fait à Toulouse, par exemple, y compris les pouvoirs publics ont une vue extrêmement confuse de qui sont socialement les victimes d'accidents d'auto. Ce qui fait, par exemple, qu'on va avoir des campagnes de prévention des accidents automobiles en tant que problème public qui vont cibler les accidents de scooters des jeunes publicitaires dans Paris, ce qui doit faire 1% de la mortalité, alors que ceux qui se tuent vraiment, c'est le jeune homme qui est carreleur dans le département du Gers et qui rentre avec une voiture toute pourrie en ayant peut-être bu un apéro de trop. C'est sur lui qu'il faudrait cibler la campagne de pub.
Ouais, donc ça veut dire que ce qui se joue, c'est pas seulement quels sont les problèmes qui vont être mis à l'agenda, mais comment ceux qui vont l'être le sont-ils, c'est-à-dire avec quels mots, avec quel lexique, quelle grammaire, et éventuellement, enfin dans les exemples que vous donnez là, quelle idéologie derrière au fond, puisque derrière, voilà, il y a l'idée de la responsabilité individuelle. C'est une forme de cadrage des problèmes sociaux que de toujours les renvoyer à la responsabilité individuelle. C'est pas une démarche de notre temps, ça aussi ?
Si, ça, je pense que c'est quelque chose de relativement, enfin, récent. Le fait de blâmer les victimes, ça a toujours existé, mais ça prend une ampleur depuis 15 ou 20 ans qui est inédite. Alors, ce qu'on peut certainement relier à des problématiques néolibérales qui valorisent la responsabilité personnelle, mais peut-être plus largement à l'idée que beaucoup des problèmes de l'humanité relèvent d'une action de soi sur soi. Les problèmes d'obésité, ça ne tient pas à des questions de malbouffe ou d'acheter des produits pas chers quand on n'a pas d'argent dans les grandes surfaces. C'est un problème de responsabilité, de compétences diététiques, et on pourrait multiplier les exemples.
La réponse est non. La France n'accordera pas l'asile politique à Julian Assange. Paris a rejeté catégoriquement la demande du fondateur de Wikileaks, retranché depuis 3 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Julian Assange a publié une tribune sur le site internet du journal Le Monde, dans laquelle il assure être menacé physiquement et psychologiquement et persécuté politiquement. Julian Assange est accusé d'agression sexuelle par la Suède, mais il est surtout dans le collimateur des Américains. En effet, Wikileaks a rendu public ces dernières années des centaines de milliers de documents diplomatiques ou classés secret défense.
Alors, il y a quand même un phénomène qui est peut-être un peu nouveau au regard de la manière dont se fabriquent ces problèmes et donc ils sont médiatisés. Je pense aux lanceurs d'alerte, à ces fameux individus qui justement vont chercher de l'info, notamment grâce à des moyens informatiques, électroniques puissants. Ils ont accès à des bases de données et qu'ils mettent en correspondance. Ça, c'est quand même relativement nouveau. Et on a vu à travers, on a l'affaire Wikileaks, mais pas seulement, que cela prend des proportions très importantes, international véritablement, et c'est de nature à déstabiliser certains puissants. Comment analysez-vous ces initiatives-là qui semblent être, elles, beaucoup plus underground, si vous me permettez la formule ?
Alors ça se développe sans doute, mais est-ce totalement nouveau ? On peut en discuter. Moi qui ai un âge précanonique, je me souviens sous la Ve République d'une affaire dite Aranda, qui était un collaborateur du ministre Chalandon et qui avait exhumé et donné à l'Express un certain nombre de documents sur la politique du ministère de la Construction. Ce qui est sans doute nouveau, c'est le fait qu'avec des ressources en ligne, les réseaux, non pas c'est plus facile, mais c'est moins difficile, où il y a des...
Ça va plus vite aussi peut-être inédites,
ça va peut-être plus vite, c'est plus facile aussi à diffuser que de faire des tonnes de photocopies. Donc ça joue certainement. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'il y ait un statut de protecteur des lanceurs d'alerte, mais peut-être aussi de réfléchir à la manière dont les matériaux de ces lanceurs d'alerte peuvent être exploités. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu une affaire, il y a 2-3 ans, en Grande-Bretagne, où on s'était aperçu que les parlementaires utilisaient leurs petites réserves financières pour faire des choses qui n'avaient rien à voir avec leurs fonctions. Et il devait y avoir, je veux dire un chiffre au hasard, 40 000 documents PDF avec des factures de parlementaires. Et le Guardian a eu une idée géniale. Il a mis ça en ligne et il a dit à ses lecteurs « allez à la pêche ». Et donc les lecteurs ont dû ouvrir, je veux dire une bêtise là encore, 20 000 documents, ce que personne à la rédaction n'aurait pu faire. Et ils ont fait bonne pioche dans 1% des cas.
Suffisamment en tout cas pour porter à connaissance, voilà, et médiatiser certaines pratiques.
Pour alimenter une argumentation sur des pratiques. Et ça, je trouve que c'est un cas très intéressant d'une coopération entre des amateurs et des professionnels des médias. Et peut-être l'exemple de choses qu'il faudrait développer.
Alors, est-ce que ça veut dire que le jeu est en train de s'ouvrir ? C'est-à-dire à la faveur quand même d'un certain nombre d'évolutions, donc ça peut être aussi bien le développement du numérique, des médias, des réseaux, etc., ou bien ce que j'évoquais tout à l'heure, un peu la démocratie participative qui n'est quand même pas qu'un mot. Est-ce qu'à la faveur de ces choses-là, on peut considérer que la fabrique de l'agenda, elle est quand même plus démocratique qu'avant, et on peut plus guère imaginer aujourd'hui des politiques bloquant complètement la montée d'un problème ou fermant complètement le jeu pour empêcher qu'un problème soit posé.
Éric Neveu.
J'avais un collègue qui avait dans son bureau une jolie affiche qui disait « La dictature, c'est ferme-la et la démocratie, c'est cause toujours ». Si on est un peu cynique, alors il y a probablement moins de possibilités de blocage, plus de jeux pour les lanceurs d'alerte. La question, c'est d'une part, à l'intérieur du système médiatique, il y a combien de titres, de sites, qui aient une audience effective, pas des choses confidentielles, qui vont reprendre ces infos, qui vont les diffuser, qui vont se mettre en marche sur la mécanique du scandale. Et puis, à supposer même que ce soit fait, est-ce que ça aura des résultats pratiques ? Je ne vais pas citer une troisième fois une marque de voiture allemande, ça finit par devenir suspect.
On va vous demander en quoi vous roulez. Hein.
mais bon, j'attends, disons, encore 6 mois. Enfin, quelles conséquences ça va avoir ? Je parle du point de vue, par exemple, de poursuites engagées ou pas par les pouvoirs publics en France qui ont été bernés par cette entreprise. Qu'est-ce qui va se passer ? Le plus plausible, c'est qu'il ne se passera rien. Donc, c'est peut-être aussi une limite du fait d'exhumer ces problèmes.
Les lanceurs d'alerte font du bruit, quoi. Et puis,
et des fois, ça va pas au-delà, où un lanceur d'alerte chasse l'autre. Ce que je dis là est peut-être très démoralisant et très cynique, mais j'ai peur que ce soit en partie vrai.
L'UNESCO se mobilise pour provoquer une véritable prise de conscience du public, de vous et moi, afin de protéger nos mers. Vous allez voir à travers ce premier reportage très spectaculaire combien l'action de l'homme peut nuire à l'environnement. L'action de l'homme qui utilise des nitrates, on le sait, dans l'agriculture, eh bien ces nitrates ont des effets secondaires négatifs à propos des algues notamment. Vous allez voir, c'est très spectaculaire. Reportage de Jacques Devaux avec Gabriel Camilla.
À marée haute, la plage de l'avant-port à Binic s'orne d'un cordon d'algues vertes.
Si l'on resserre un petit peu la focale géographique et l'on observe ce qui se passe en Bretagne, sur un territoire qu'on connaît bien ici, où il y a des médias installés, puissants, notamment en presse écrite, quelle analyse formulez-vous justement par rapport à la manière dont les problèmes publics bretons sont mis à l'agenda ?
Il me semble que une des particularités des presses locales, c'est précisément ce qu'impliquent ces dimensions du local. C'est-à-dire, on va plutôt célébrer le « nous » auquel fait référence la presse locale, c'est un « nous » territorial, c'est nous les Rennais, nous les Bretons. Donc, ce qui ternit l'image de l'identité territoriale...
Et soigneusement mis de côté ?
En tout cas, on va pas en faire 3 tonnes. On va éventuellement le faire si le problème qui est dans la région, on peut l'imputer à des fauteurs de troubles qui sont extérieurs à la région. Si c'est l'Europe qui ruine notre industrie agroalimentaire, si c'est Paris, on peut en parler. Regardez la réserve avec laquelle la compétence et le talent stratégique des abatteurs de volailles bretons a été contesté dans la presse. Il fallait pas parler de ça, c'était tout à fait déplacé, ça allait briser le front des bonnets rouges. Donc la capacité des presses régionales à rentrer dans une logique polémique sur les problèmes, au fond, je dirais qu'elle ne peut exister, à mon sens, que dans les agglomérations assez grandes, où il y a justement une pluralité des sources d'information des institutions, qui fait qu'on n'est pas pieds et poings liés aux mains d'une autorité. J'ai eu un doctorant qui a commencé sa carrière en étant journaliste dans un titre local, on va le dire, de Pontivy. Et comme il était diplômé de Sciences Po, il était très intelligent et il voulait faire du muckraking. Et il avait découvert qu'il y avait un transfo Céveso dans le centre de cette cité. Donc très fier, il a mis ça à la une du petit journal auquel il coopérait. Sa vie de journaliste s'est arrêtée là parce qu'il avait oublié que le patron du journal, c'était le député maire. Et on lui a fait comprendre que c'était de très mauvais goût.
Oui, donc les limites de l'investigation, c'est la proximité avec ses sources, d'une certaine manière.
Évidemment. Et ou l'absence de pluralité des sources.
Et toujours pour rester un petit peu en Bretagne, avant la petite pause musicale que l'on va prendre pour respirer un petit peu dans quelques instants, mais c'est passionnant, une question concernant les officines ou les laboratoires d'idées qui peuvent exister toujours en Bretagne. Il y a Bretagne Prospective, il y a l'Institut de Locarn, il y a des gens comme ça qui réfléchissent entre eux, qui essayent de fournir des argumentations et de mettre des débats sur la table. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous les analysez, ces rôles-là ?
Sur le principe, je trouve ça très intéressant, le développement de ces lieux qui se donnent comme programme d'avoir une réflexion un peu sérieuse, un peu exigeante. Les questions, c'est... Enfin, je dirais, est-ce que ces institutions ont un minimum de transparence ? Est-ce qu'il y a une forme de pluralisme intellectuel à l'intérieur ? Et comme dans pas mal de cas, là, mais plutôt au niveau national, mais on a vu un déplacement des lieux de réflexion des partis politiques vers les think tanks qui ont en quelque sorte externalisé la réflexion. Est-ce que le tour de table des think tanks est radicalement différent, ou est-ce qu'on ne retrouve pas encore des gens qui sortent des mêmes écoles de pouvoir, qui ont les mêmes formations? Et je crains que la réponse soit que le cercle enchanté des élus, au sens les meilleurs et ceux qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, s'étendent pas beaucoup.
Christian Lebarthe.
Oui, c'est la question des experts et de leur capacité à, quand on n'est pas politique, quand même, à troubler un peu l'agenda. J'avais en tête, par exemple, un rapport qu'avait fait le Césaire à l'époque, donc Conseil économique et social de la région Bretagne, sur le suicide des jeunes en Bretagne, en disant tous les indicateurs sur la jeunesse en Bretagne sont très favorables, scolarité, etc.
Mais attention.
Et attention, il y a un chiffre contre-intuitif qui est le taux de suicide. Et qui avait, ça avait quand même suscité une réflexion à l'échelle de l'Assemblée régionale, mais c'est le rôle du Césaire. Donc ça peut arriver quand même qu'il y ait de l'expertise qui fasse remonter des problèmes.
Tout à fait. Mais je pense que le Césaire, en raison même de sa composition, ces statuts juridiques, ben, à une dimension de pluralisme tout par fait, les, oui. les composantes, peut y avoir de vraies discussions avec des points de vue contradictoires. Oui.
On va marquer une pause dans cette émission Chercheur en ville qui reçoit aujourd'hui Éric Neveu. Nous écoutons le titre Daily News de Maps and Atlases. C'est maintenant.
Maps and Atlases à l'instant sur l'antenne de Canal B avec le titre Daily News. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en Ville. En ce mois de décembre, nous nous intéressons à la construction de l'actualité. Car oui, l'actualité se construit. Comme nous le disions en première partie, même si tous les sujets sont potentiellement des informations, tous ne font pas pour autant l'actualité. Il faut parfois jouer des coudes pour inscrire ses intérêts à l'agenda médiatique. Alors nous ne parlons pas ici de complot, mais plutôt de jeu d'influence, et vous entendrez en deuxième partie que les médias jouent un rôle particulièrement important dans le cadrage de ce que notre invité nomme les problèmes publics. Les journaux peuvent ériger monsieur ou madame tout le monde au rang de héros. Et puis on s'interrogera aussi sur le rôle des intellectuels. Sont-ils entendus? Ont-ils un poids dans la construction de ce qu'on appelle l'agenda? Question posée à notre invité, le politiste et sociologue Éric Neveu, par Xavier de Bontrid, rédacteur en chef de Place Publique, et Christian Lebar, directeur de la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. À vous, Christian.
Oui, alors je veux bien qu'on revienne sur la question des médias, du rôle joué par les médias dans le cadrage des problèmes publics, l'agenda médiatique au fond. Qu'est-ce qui fait qu'au journal de 20 heures on va parler de ceci plutôt que de cela? Qu'est-ce qui fait que...
Le Monde a fait son titre dessus à 14h quand il est sorti le même jour. C'est souvent ce qu'on dit, mais je laisserai Éric Neveu préciser.
Oui, alors d'abord, est-ce qu'ils cadrent tous de la même façon et est-ce qu'ils hiérarchisent tous l'information de la même façon? La réponse, évidemment, est plutôt non. Et puis surtout, comment ils cadrent? C'est-à-dire, est-ce que du fait du développement des médias dans notre société, il n'y a pas une tendance à privilégier des cadrages qu'on pourrait appeler émotionnel, c'est-à-dire au fond, les lois journalistiques classiques, on ne fait pas forcément la une avec 100 morts, mais on...
La loi du mort-kilomètre, ça s'appelle.
Voilà, c'est ça, la loi du mort-kilomètre, ouais. On fera plutôt la une avec une victime, si on a pu la cadrer de près, si ça se passe pas loin de chez nous, et si ça nous touche, voilà, pour utiliser un mot qui, je crois, est important dans les raisonnements des journalistes. Alors, que disent les sciences sociales là-dessus?
Les journalistes anglais ont une belle formule, ils disent « when it bleeds, it leads ». Quand ça saigne, ça fait la une, mais effectivement, on trouve cette dimension-là. La question, c'est aussi quelles émotions, parce qu'effectivement, jouer sur des émotions, et c'est pas forcément péjoratif, c'est un moyen de créer un lien avec son auditoire ou son lectorat. Et suivant les types d'émotions qu'on va mettre en scène, sont pas forcément les mêmes ressorts. Je sais pas si je donne un exemple. Il y a eu une première vague de mobilisation sur la question de l'amiante dans les années 70, et qui là constituait plutôt l'amiante en problème à partir des difficultés de santé, des morts qu'il y avait dans les entreprises qui traitaient l'amiante, comme les usines de plaquettes de frein ou des choses comme ça. Et là, au fond, le ressort sollicité, c'était plutôt la compassion. On avait des images terrifiantes de ces gens qui n'arrivaient pas à respirer, parce que c'est un peu comme la silicose, l'asbestose. Mais la compassion, c'est fugitif. Le monde nous donne assez de motifs de faire glisser la compassion d'un sujet à un autre. Et donc, bon, ça aboutit à une amélioration des conditions de travail, mais les gens continuent à mourir. Et 15 ans plus tard, l'amiante revient à la une, mais là, alors à la fois cadré complètement différent, c'est plus un polluant industriel, c'est un polluant environnemental, c'est-à-dire il y en a dans le plafond, il y en a dans la garniture de la planche à repasser, il y en a dans la cuisine, donc nous allons tous y passer, et du coup on passe d'un jeu sur la compassion à un jeu sur la peur, et la peur est beaucoup plus mobilisatrice, va susciter beaucoup plus d'attention, et le résultat, ça va être l'interdiction complète des usages de l'amiante, parce que le ressort émotionnel qui a été sollicité avait probablement une portée beaucoup plus large.
Oui, en même temps que je posais ma question tout à l'heure, je pensais à, dans le prolongement de ce que vous dites, cet exemple terrible qu'on a tous en tête de la terrible photo du petit bonhomme noyé
sur la plage turque, Elan, en septembre.
Voilà, c'est ça. Et je ne sais pas quoi en penser. Alors, il y a eu beaucoup de débats parmi les journalistes sur...
Faut-il publier la photo ou pas, avec quel cadrage,
voilà. Et en même temps, il y a quand même une causalité quasi directe entre la publication de cette photo, malheureusement, et l'événement tragique auquel la photo renvoie, et une ouverture qui a été faite par Angela Merkel en Allemagne. Je ne sais pas quoi en penser de ça.
J'ai pas la réponse, mais d'abord, enfin, causalité directe, moi je demande à voir. Il y a concomitance, mais est-ce qu'il y a causalité? Et est-ce que suggérer qu'il y a causalité, c'est pas une façon de se grandir ou de montrer ou de s'attribuer un pouvoir qui est peut-être imaginaire de la part des institutions médiatiques qui ont publié la photo en question? Et puis probablement l'ambiguïté, mais je suis tout autant pris dedans que vous l'êtes sans doute l'un et l'autre, c'est qu'au fond, on est dans un univers très cartésien, très rationaliste, où au fond les émotions c'est mal, parce que les émotions c'est le contraire de la raison, c'est l'emportement, d'ailleurs les émotions c'est féminin, donc il faut s'en méfier absolument. Or,
ça sera retenu contre vous ça je pense.
Bon, j'ai déjà un dossier très lourd, mais... En réalité, il me semble qu'il n'y a pas contradiction absolue entre les deux et que si nous sommes émus, je ne sais pas, au spectacle de gens qui font la manche dans la rue un jour d'hiver où il fait atrocement froid, si le corps de ce petit bonhomme qui pourrait être notre fils ou notre petit-fils, ça nous fait quelque chose, c'est aussi que derrière, il y a une idée de commune humanité, une idée de solidarité. Et heureusement qu'il y a ça, et ce n'est pas irrationnel et ce n'est pas détestable.
On voit aussi que dans ce genre de débat, la force d'une image est parfois plus fédératrice que de bien des explications développées sur de nombreuses pages. Là, il y avait une sorte de coïncidence ou de concomitance entre effectivement une image insoutenable et puis avec une portée un peu universelle qui permettait à chacun de se positionner. Est-ce que finalement, quand on parle de problèmes publics aujourd'hui, pour qu'ils soient efficaces et relayés, est-ce qu'il faut systématiquement qu'ils s'appuient sur une image ou un visuel qui permette de le comprendre instantanément et de faire appel, comme vous venez de le dire à l'instant, à l'émotion?
C'est sûr qu'à la télé, ça paraît difficile de se passer complètement des images. Je dirais qu'il faut au moins des espèces de symboles de condensation des événements ou qu'on puisse raconter une histoire qui mette de la chair. Et en sens inverse, plus on va devoir essayer de rendre compte d'un problème qui est technique ou qui repose sur des chaînes de causalité très compliquées, plus c'est extrêmement difficile et il faut un immense talent, qu'on soit journaliste ou qu'on soit chercheur en sciences sociales, pour restituer ça. Je me souviens de discussions au moment de l'affaire du Crédit Lyonnais, là, quand il est au bord de la faillite. Bon, expliquer.
Pas facile à raconter en 2 minutes 30. Hein.
Parce que il y a des histoires, quand j'ai dit ce sont les ratios prudentiels, des ratios Cook, j'ai épuisé mon savoir et si vous me demandez ce que c'est, je n'en sais rien. Mais il faut rentrer dans l'explication des ratios.
Heureusement, il y a Bernard Tapie qui arrive dans le débat et là, d'un coup, ça devient vendeur.
Voilà.
En tout cas, ça devient accessible.
Il y a même de l'émotion puisqu'il est ruiné et que ça nous bouleverse tous.
Archi ruiné.
Donc ça veut dire aussi qu'une des contraintes de ce cadrage médiatique, c'est il faut que y ait des récits avec des personnages, avec des visages, avec des gentils et avec des méchants. Les méchants d'un jour pouvant être les gentils du lendemain, parce qu'on parle de Bernard Tapie, voilà, victime hier d'une justice implacable et aujourd'hui coupable. Enfin bon, voilà. Est-ce qu'il faut est-ce que l'opinion publique a accès à aux événements, etc., autrement que par ces récits très, très personnalisés.
L'opinion publique, chacun le sait, n'existe pas. Donc ça dépend des types de publics, de l'outillage cognitif, de la connaissance qu'ils ont des dossiers. Mais je pense que toute une part de l'art du journalisme, et peut-être d'un art que nous n'avons pas assez en sciences sociales, c'est d'être capable d'essayer d'expliquer des choses compliquées sans devenir simplet et simpliste, en utilisant des histoires, des personnages, des exemples, des cas. Bon, et je crois qu'on peut dire des choses tout à fait justes, profondes et intelligentes en racontant des histoires ou en essayant de condenser à partir de personnages, de situations, de choses vues.
L'idée, c'est de pouvoir laisser une trace pour les générations futures, de se souvenir qu'il s'est passé des choses, des événements importants sur ce lieu, et qu'on puisse commémorer les victimes de ces événements par une œuvre monumentale.
Les membres de l'association Génération Bataclan appellent ceux qui le souhaitent à participer à la conception du monument. Via leur page sur un réseau social, tous peuvent le financer ou donner des idées sur son aspect.
La façon dont Libération traite l'après Bataclan, ils font un truc qui est absolument formidable, ils font des portraits.
En fait, tout le monde fait ça, hein. Le Monde le fait aussi. Et ce sont les Américains, ce sont les médias américains qui, après le 11 septembre, ont fait cette espèce de mémorial. Et effectivement, c'est très fort parce qu'on se plonge dans l'intimité de personnes qui, évidemment, nous étaient étrangères avant qu'on découvre leur nom et qui d'un coup nous deviennent très proches. C'est assez frappant.
Et en même temps, avec un cadrage qui n'est pas neutre. On fait des portraits qui sont assez précis, mais qui ne disent pas n'importe quoi à des personnes et qui disent des choses qui sont de nature à... voilà.
On n'a pas tellement vu de portraits de gens qui étaient vraiment présentés comme des salauds, hein, jusqu'à présent.
Oui, non seulement ça, mais en plus... on en fait, enfin dans Libé c'est très évident, les symboles d'un certain rapport au monde, d'une certaine liberté de vie, d'orientation culturelle, etc.
Si je rapatrie une de mes lubies, mais je pense qu'effectivement, en racontant des histoires, mais une histoire ça peut être long et ne pas faire décrocher le lectorat. C'est-à-dire quand Florence Aubenas écrit Le Quai de Ouistreham, il s'écrit 10 reportages comme ça tous les jours aux États-Unis, elle nous parle de la précarité.
Il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs qu'il s'agit d'un reportage où elle se fait passer pour une personne qui vient nettoyer les ferries.
Elle va travailler,
se fait embaucher, sans dire qu'elle est journaliste, bien sûr, personne ne la reconnaît, et le récit est saisissant, bien
tout
sûr.
Tout à fait. Et donc là, on a un livre en termes de format, mais il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de mots en isme, et en même temps sur ce que c'est que l'expérience du travail précaire, sur ce que c'est que les rapports sociaux avec les gens qui sont complètement en bas des hiérarchies de salaire et de statut, c'est quelque chose de remarquable, et je pense qu'on peut aussi couvrir tout un tas de problèmes publics sur ce registre-là.
C'est une forme de journalisme à l'américaine, c'est un domaine que vous avez étudié très soigneusement, Éric Neveu, on retrouve là des ressorts dans le style, la narration, la manière d'aller au plus près d'un problème parfois compliqué en s'intéressant avant tout à ses acteurs.
Oui, alors c'est pas forcément que les Américains soient plus doués ou moins doués que nous. Je pense que la différence, c'est qu'ils ont des supports, notamment une presse magazine extrêmement florissante qui permet de développer ce genre-là. Moi, j'ai l'impression que c'est en train de décoller en France.
Alors, on parle beaucoup de journalisme du temps long, hein, les magazine books, les MOOCs.
Voilà, les 21, des choses
voilà,
comme ça.
Même Place Publique, on est un petit peu dans cet esprit-là, d'une certaine manière, très modestement. C'est quelque chose que vous observez de près aussi ?
Oui, parce que moi je pense que ça peut être un moyen précisément de mettre en récit d'une manière tout à fait concrète, charnelle, mais motivante, toute une série de problèmes publics, et que ça peut être une ressource supplémentaire pour les diffuser. Bon, on va retomber sur la question qui lit ça. C'est pas lu par l'universalité de la population, mais enfin, en même temps, quand on voit le développement du niveau de scolarisation de la population dans les pays comme la France, il y a autre chose qu'un lectorat très marginal qui peut saisir de ces récits.
Donc c'est quand même un motif d'une forme d'optimisme raisonné.
C'est un motif d'optimisme, ils ne sont pas si nombreux, soulignons-les.
Christian Lebarthe.
Oui, mais alors en disant tout ça, on insiste beaucoup sur des conditions très particulières de mise à l'agenda. Il faut vraiment la mise en récit, etc. Alors du coup, ça m'amène à poser une question, peut-être un peu pour terminer cette émission, qui est la question des chercheurs en sciences humaines et sociales, au fond. Comme eux, ils ne sont pas prédisposés, comme vous le disiez tout à l'heure, à utiliser les formats journalistiques. Est-ce que les chercheurs en sciences sociales, et puis peut-être plus généralement les intellectuels, sont en situation de peser sur l'agenda? Et si je pose la question, c'est parce que je pense, étant appartenant à cette corporation, je pense qu'il y a eu des moments dans l'histoire des sciences sociales où les chercheurs vraiment pouvaient mettre à l'agenda des questions. Enfin, voilà, Michel Foucault, la condition des prisonniers, la condition homosexuelle, etc. Et est-ce qu'on en est encore de là? J'ai l'impression que les...
Poser la question, c'est presque y répondre,
ouais,
Christian Lebas.
Si on veut, oui, oui.
Éric Neveu.
D'une part, je pense que nous ne savons pas toujours faire ça bien et qu'au fond, nous sommes à l'aise quand nous sommes sur Canal B, Radio Campus ou France Culture. Mais quand il faut jouer au bon client et répondre à des problèmes compliqués en 45 secondes, je ne sais pas si on peut le faire. Et en tout cas, nous ne savons pas le faire. Et puis, on revient à la question que je soulevais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'autisme de la classe politique, illustration très pratique. pratique. Après les attentats de Charlie, la personne qui était ministre des universités, dont je veux déjà avoir oublié le nom, s'est alarmée de ce qu'il n'y ait pas de travaux académiques sur les questions de radicalisation. Donc les collègues en charge des sciences sociales en CNRS lui ont amené une pile d'une hauteur considérable de travaux, parfois financés par le ministère même qu'elle dirigeait, mais personne ne lit ça dans les décideurs politiques. Et donc, il y a une espèce d'incommunication entre les travaux de sciences sociales, qui tous ne sont pas extraordinaires, mais dont un certain nombre pourrait vraiment avoir une utilité sociale, aider à poser différemment les problèmes et à les poser de façon moins bête. Et ce sont des travaux qui n'ont pas de relais auprès de ceux qui ont des pouvoirs de décision.
Qu'est-ce qu'il faudrait, justement, selon vous, pour que ces travaux puissent avoir un écho plus important? Est-ce que c'est la manière dont ils sont diffusés? Est-ce que les prérequis nécessaires à leur compréhension, à leur manipulation ne sont pas suffisamment développés? Qu'est-ce qui coince?
Ouais, parce qu'il faudrait beaucoup de choses, une émission supplémentaire pour vous en parler, mais
on va y penser.
Il faudrait peut-être de meilleures connexions entre les chercheurs et les médias en termes de diffusion. Et puis, ça n'a aucun rapport, mais ça en a un central. Bah, il faudrait que le personnel politique retrouve le temps de lire, retrouve les moyens de lire autre chose que des rapports ou que ses codes
des
de popularité ou des notes sur un recto verso. Il faudrait accepter l'idée que le monde réel, on ne peut pas le comprendre à travers 1500 signes et qu'il faut des fois se farcir de lire des choses un peu plus conséquentes ou aller y voir ou dire je prends 3-4 jours pour essayer de me familiariser avec ça.
La dictature du temps court,
présentisme,
cette nécessité absolue de pouvoir être en capacité de réagir à tout instant sur tout ce qui se passe, c'est ça qui aujourd'hui porte en lui cette forme de faillite de la pensée d'une certaine manière.
Oui, je pense que ça c'est un des éléments où au fond, enfin, l'idée que dès qu'on a écrit plus de 10 pages sur un sujet quelconque, on est dans le bavardage, voire la masturbation intellectuelle, et qu'en tout cas on ne fait pas avancer la résolution des problèmes, je pense que c'est tout l'inverse.
Ce sont des intellectuels qui vivent entre terre et ciel, ils ont le don providentiel de la pensée. Ils voyagent dans de vieux bouquins qui datent du temps de Charles Quint, ornés des couleurs d'Arlequin, chose insensée. Ils connaissent tout de l'univers, de son droit.
Christian Lebar, encore une question, peut-être?
Oui, peut-être. Glisser vers une autre question qui est celle des intellectuels. On a parlé des lanceurs d'alerte, on a parlé des chercheurs en sciences humaines et sociales. Les intellectuels, voilà, bon, catégorie un peu problématique aujourd'hui.
Il en reste encore?
Oui, alors est-ce qu'il en reste et comment ils peuvent jouer ce rôle? Est-ce qu'ils le jouent ou est-ce qu'ils sont pas un peu pris aussi dans toutes les connivences qu'on évoquait tout à l'heure?
Si, quand on voit y compris des intellectuels qui, de mon point de vue, pouvaient avoir un propos stimulant, poil à gratter, et qui au fond sont comme les papillons de nuit qui sont pris dans les lumières des médias et qui finissent par être complètement fascinés, je pense que c'est un gros problème. C'est pour ça que l'idée qu'avait eu Bourdieu, qui n'a pas complètement réussi à traduire, mais cette idée à la fois de l'intellectuel collectif où on mutualise, on essaie de trouver des supports de presse, des petits bouquins qui condensent des informations ou des approches sous une forme lisible. Cette forme d'éthique du travail intellectuel qui est aussi de dire je ne réponds aux sollicitations des médias que si j'ai travaillé sur la question. Le jour où on sera débarrassé des toutologues qui sont capables de répondre à n'importe quelle sollicitation et dont la principale qualité est de mettre un vibrato d'émotion dans les conneries qu'ils racontent, ce sera un immense ce progrès des rapports entre les intellectuels et les médias.
Est-ce que c'est très française la situation que vous décrivez là ou est-ce qu'on peut l'observer un peu partout, je pense en Europe mais peut-être également en Amérique du Nord?
C'est pas que français puisque tutologue ça vient de tutologo qui est italien, mais non, c'est quand même assez typique de la France. Dans les pays anglophones en particulier, alors ça a d'autres inconvénients, mais les intellectuels n'ont pas ce prestige, ce sont pas des articles qu'on met dans la vitrine et qui sont présumés attirer le chaland.
Ce ne sont pas des têtes de gondole.
Non, pas du tout.
Et du coup, ils jouissent d'une plus grande liberté et d'un recul sans doute plus important pour traiter les sujets avec la distance qui s'impose.
Ce qui éventuellement engendre d'autres pathologies, parce qu'ils sont tellement en dehors du jeu et tellement isolés que ça donne aussi ce qu'on appelle ironiquement le radicalisme de campus, c'est-à-dire cette espèce de rage de l'impuissance et de ne pas avoir le moindre écho, qui est de prendre des positions terriblement radicales, mais qui sont purement rhétoriques.
Il y a une nouvelle voix qui émerge. Est-ce que vous constatez dans les jeunes générations que vous contribuez d'ailleurs, Éric Neveu, à former, l'apparition ou une curiosité particulière pour agir différemment sur ces problèmes publics?
Oui, sans doute. Alors le problème, c'est qu'on a toujours tendance à juger les générations nouvelles à l'aune de ce que faisait sa propre génération. Et donc
c'est un prisme déformant, forcément.
Descendant. Mais je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des sensibilités critiques, des volontés de s'investir dans toutes sortes d'actions associatives et autres. Et puis la contre-tendance, c'est peut-être une obsession de la part des étudiants devant le pratico-pratique, l'utile, des enseignements qui ont réellement une efficacité professionnelle tout de suite, demain. Mais regardons la première tendance, parce qu'elle existe aussi, elle est plutôt réconfortante.
Est-ce qu'il n'y a pas non plus, de la part de cette génération, qui est celle aussi qui écoute Canal B, une défiance croissante à l'égard des médias établis et traditionnels au profit d'un investissement plus important dans des réseaux associatifs, vous l'avez dit, réseaux sociaux, circuits courts et directs, une forme d'engagement militant, mais 2.0 celui-là.
Oui, puis aussi l'idée selon laquelle les problèmes qui se posent, on les affronte par sa pratique, un peu ce qu'on disait au début de l'émission, c'est-à-dire on est militant de la vie quotidienne et on n'attend pas une mise à l'agenda politique et on n'attend même plus des politiques publiques, parce qu'au fond, il y a un peu l'idée de régler les problèmes par en bas sans passer par les politiques publiques parfois. Sur les questions d'environnement, c'est...
Oui, mais alors, on revient à notre discussion de tout à l'heure. Est-ce qu'on va régler les problèmes par en bas sur la base de notre bonne volonté individuelle et de l'exemple qu'on va donner? Il faut le faire, mais ça ne suffit pas forcément. Ou est-ce qu'on va régler les problèmes par en bas en agissant collectivement? Enfin, je pense à la formule de Gitlin à propos des mouvements antiracistes aux États-Unis. Enfin, nous n'avons pas disserté sur la ségrégation, nous l'avons abolie. Et ça suffit. Suppose une action collective. Mais effectivement, un certain nombre de sites de sociabilité de réseaux sociaux, ça peut contribuer à ça. Les mythifions pas non plus, quoi.
Une question peut-être d'actualité dont il est certainement encore trop tôt pour apporter une réponse définitive, mais je pense à l'état d'urgence qui est la situation dans laquelle nous sommes plongés maintenant depuis quelques semaines. Est-ce que cette situation-là modifie la manière dont les problèmes publics sont mis à l'agenda, ou est-ce que ça va flécher certains sujets et au contraire d'autres seront soigneusement écartés au nom justement d'un intérêt supérieur, en l'occurrence de sécurité publique?
Le risque, c'est d'imposer un cadrage sécuritaire à un nombre croissant de problèmes. Si on comprend très bien que dans le contexte actuel, il puisse être utile d'aller faire des perquisitions, y compris en dehors des heures habituelles, chez des gens qui sont suspectés de terrorisme, on comprend moins pourquoi, par exemple, des séminaires de recherche sont interdits de déroulement à la Sorbonne au nom de l'état d'urgence. Bon. Et on voit aussi que les espèces de poissons que les forces de police ramènent dans leur filet sont quand même extrêmement plus variés et larges que les présumés terroristes. C'est peut-être l'état d'urgence qui va devenir un problème public dans les mois à venir.
C'est ce qui sera intéressant de suivre, effectivement. Nous arrivons au terme de cette émission. Éric Neveu, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à mon complice Christian Lebar de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne de l'avoir animé à mes côtés. Merci à Ronan Lemoyer de l'avoir coordonné. Très bonne écoute sur Canal B et à bientôt.
Et merci à vous tous.
Merci Xavier, et pour aller plus loin, retrouvez bien sûr l'ouvrage d'Éric Neveu, Sociologie politique des problèmes publics, paru chez Armand Collin en 2015. Et puis, comme de plus en plus de recherches en France s'intéressent à la question des problèmes publics, voici quelques références à consulter. L'expérience des problèmes publics de Daniel Sefaille et Cédric Terzi aux éditions de l'EHESS, paru en 2012. Amiante, un scandale improbable d'Emmanuel Henry aux presses universitaires de Rennes, paru en 2007. Accident de la route et inégalité sociale, les morts, les médias et l'État de Mathieu Grostet aux éditions du Croquant en 2012. Et puis vous pouvez aussi écouter sur la wiki radio de l'UEB le podcast d'un colloque organisé à Sciences Po Rennes en 2014, Agir dans un monde incertain. Et puis pour faire écho à l'émission que vous venez d'écouter, vous commencez à en avoir l'habitude, rendez-vous vendredi prochain à 13h sur Canal B pour le troisième numéro de Ricochet, l'émission des étudiants en journalisme de Sciences Po Rennes qui iront encore plus loin à travers des reportages et des chroniques. Passez une très bonne journée à l'écoute de Canal B.
Chercheurs en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec Place Publique, la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne et la Wikiradio de l'UEB.